ça donne pas envie de porter des pattes d'eph et des lunettes de soleil, ça. Vous avez reconnu l'intro?
J'ai pas reconnu, mais.
Absolument pas, non.
Non. c'était Starsky Hutch.
Voilà, une série, mais oui.
Et ouais, mais une version un peu spéciale, puisque c'est celle qui a été faite par Alexandre Astier, et il a fait tous les instruments tout seul, et il avait posté ça sur Twitter il y a quelques temps. Et bonjour et bienvenue dans Les Agités du Dernier Rang. Les Agités du Dernier Rang, c'est l'émission un peu détente des agités. Et avec moi aujourd'hui, il y a Fred. Salut Fred.
Salut Seb.
Et il y a aussi Pascaline. Salut Pascaline.
Salut Seb, salut Fred.
Salut Pascaline.
Alors Pascaline, quoi de neuf?
Quoi de neuf? Eh bien moi, j'ai redécouvert la Dordogne. J'ai profité d'être en France pour faire un petit peu de tourisme. Et donc je suis allée dans cette belle région de France visiter quelques châteaux. Et ça m'a donné des idées pour le FLE. Voilà, comme quoi le FLE est toujours présent. Et j'ai visité le château de Bénac et parlé un petit peu d'histoire de France. Voilà, et je crois savoir que Fred, tu connais bien ce château?
Oui, je le connais très très bien, Pascaline. Non, pas du tout. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, moi aussi, je suis rentré en France en avril-mai et je suis aussi allé visiter le château de Bénac, une région que je ne connaissais absolument pas. Si, oh là là, quelle coïncidence. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas du tout pensé au FLE, par contre, je suis désolé. Mais j'ai adoré. C'est vraiment un super endroit. Ouais, un très bon souvenir.
Alors, moi, j'ai jamais entendu parler de ce château. Je me sens un peu con, là.
On t'expliquera.
Ouais, mais il est bien alors.
Le coin est vraiment sympa. Ouais.
Il a été super actif pendant la guerre de 100 ans. Il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, il a une valeur historique. Et ça peut te faire. Ça fait rêver, quoi, ce château.
Ouais, c'est assez sympa. En fait, c'est ce château, et disons que ce château est un peu à la frontière avec le camp, on va dire, des Anglais. Et du coup, quand on écoute l'historique un peu de tous les châteaux du coin, ils sont tous en train de s'observer d'un château et de l'autre. Et c'est assez marrant, quoi. Il y a une espèce de petit delta. C'est pas un delta, c'est la Dordogne qui fait un virage à cet endroit-là. Ouais. Et rien que de savoir, les Anglais, ils étaient là, les Français, ils étaient là, ils se sont observés pendant un sacré temps. C'est assez marrant, et le coin est vraiment très 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 agréable.
Ouais. Vas-y Seb. Vas-y.
Moi j'ai des vacances beaucoup moins culturelles que les vôtres, hein, parce que je suis allé faire du camping avec des Américains. Et c'est très différent le camping.
Dans un château, tu peux faire du camping près d'un château.
Ouais, alors là en l'occurrence c'était au bord d'un lac, et le camping à l'américaine c'est pas du tout comme les campings français. Hein, c'est beaucoup plus route, beaucoup plus nature. Et là il y avait le camp, il y avait 4 douches pour tout le camping, et puis donc un lac. Et après, sur ton emplacement, tu avais une table et puis de quoi faire un feu. Et c'est à peu près tout, quoi. Mais c'était vachement sympa. On a fait du bateau sur le lac, des randonnées en forêt. Et après, on est rentré. Et là, on a fait un match de foot France contre le reste du monde. Et la France a gagné 10 à 9. Je vous laisse imaginer le niveau du jeu avec des scores pareils.
10 à 9, ouais. Wow.
Mais
c'est du foot ou du rugby?
c'était du foot, mais dans mon équipe on avait des petites françaises on avait des petites françaises qui étaient attaquantes. Elles ont un sacré niveau, quoi. Il y avait quatre petites filles entre 9 et 11 ans, et si elles n'avaient pas été dans l'équipe, je crois qu'on aurait perdu contre le reste du monde. Mais donc pour revenir aux Anglais, il y avait des Anglais dans l'équipe d'en face et on leur a mis une pile, donc c'est cool.
Voilà, et c'est comme ça qu'on retombe sur l'histoire de France, la guerre de 100 ans et la France.
Et la guerre de 100 ans.
Très bien joué.
Voilà. Et pour la petite anecdote, c'est moi qui ai marqué le but de la victoire. Donc j'ai planté l'étendard français dans le cœur de la perfide Albion, comme on dit. Et puis paf.
On a gagné. Quoi.
Bon, sinon on va passer au sommaire de cette émission. Alors on aura un dossier sur les jeux de société. Je vais vous parler un peu de jeux de société, et puis je vous ferai un petit quiz pour voir si vous m'avez bien suivi, si vous m'avez bien écouté. Et on passera au coup de cœur, coup de gueule pour terminer un peu l'émission. Et on passe tout de suite donc au dossier.
Alors dans ce dossier détente, ça, tu vas nous parler de quoi? Tu dis les jeux de société, mais c'est quoi les jeux de société?
Alors, c'était justement la question par laquelle il ne fallait pas commencer, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de définition qui était satisfaisante pour tout le monde pour les jeux de société. Donc, quand c'est comme ça, je fais une définition un peu à ma propre sauce. Peut-être avant, déjà, moi, je voulais vous parler de jeux de société, parce que dans les agités du dernier rang, on en profite pour parler un peu d'autre chose que du FLEU, et puis de parler de choses qu'on aime. Et moi, bon, j'aime bien l'électroménager et j'aime bien les jeux de société. Aujourd'hui, j'ai préféré parler de jeux de société. Vous jouez, vous, un petit peu ?
Ben ouais, je joue, mais c'est vraiment nouveau. J'ai découvert ça depuis, je dirais, quelques mois.
Ouais, il y a un gros engouement depuis quelques années en France et en Europe, mais aussi au Japon d'ailleurs et aux États-Unis. Un renouveau comme ça du jeu de société. Fred, tu joues aussi un petit peu, toi ?
Dernièrement, non, j'ai beaucoup joué, mais effectivement, ouais, j'ai constaté cette espèce d'engouement, de petits renouveaux. Et j'ai vu passer plusieurs choses qui me tentent très bien, notamment des petits jeux de cartes rapides, mais des choses un peu plus complexes. Il y a une société en France, d'ailleurs, qui développe des choses assez intéressantes. Je vais tenter ça la prochaine fois que j'irai en France.
Ouais. Alors, pour revenir un petit peu à cette définition du jeu de société, alors, je ne vais pas faire un truc théorique, mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé de commun aux jeux de société auxquels je jouais, c'était qu'on jouait à plusieurs. Donc pour l'opposer un peu aux jeux solitaires, mais on va voir ensemble qu'il y a des jeux de société qu'on peut jouer tout seul quand même. Ça complique un petit peu les choses. Il y a des règles et en gros le but c'est de gagner. Et en fait pour pouvoir faire jouer les gens entre eux, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent intervenir. Donc il y a le hasard. Grosso modo, on contrôle pas grand-chose. Hein. C'est pas mal de jeux de dés ou de jeux de cartes qui sont mélangés. Il y a les jeux tactiques, stratégiques, où on fait des combinaisons de mouvements. Il y a généralement c'est au tour par tour. Hein. On fait une action et les autres joueurs ou le jeu réagit à ça. En jeu tactique, stratégique, hein, il y a le célèbre risque. Je ne sais pas si vous connaissez
ouais.
Risk. Hein,
mais... Si, ouais. Je suis un gros amateur.
Eh ben voilà.
J'étais.
Il y a les jeux d'adresse. Mm-hmm. Donc là, quand tu joues aux fléchettes, par exemple, hein, c'est un jeu d'adresse. Il y a les jeux de mémoire. Il faut mémoriser des trucs. Les jeux de culture, bon, là, en général, je ne suis pas très bon. Hein, il faut connaître des trucs et puis les
très
ressortir au bon moment.
Genre
voilà.
De
ouais. Et des jeux de bluff. Ou de psychologie.
Ah hein. Oui, comme le loup-garou.
Eh ben voilà, ça peut en faire partie, effectivement. Des jeux d'enchères. Mm-hmm. Donc là, c'est dans le poker, il y a certaines enchères qui se font. Il y a plein d'autres jeux comme ça. Il y a des jeux d'échange, de commerce. Voilà, on connaît tous le célèbre Monopoly. Hein. Il y a des jeux de réflexe ou de rapidité.
Ah oui, ouais, je vois, comme Bazar Bizarre.
Ouais, par exemple, ça c'en est un. Il y a des jeux de parcours, donc là c'est on avance pour arriver à la fin, un peu comme le jeu de loi ou un truc qu'on a ici aux États-Unis qui s'appelle Candyland, qui est très connu parce que c'est un jeu qui peut commencer à se jouer à partir de 2 ans. Donc c'est vachement pratique. Ouais, au lieu de lancer des dés comme on ne sait pas compter, on tire des cartes avec des couleurs dessus et on avance à la prochaine couleur, des petits bonhommes, dans un jeu de bonbons. Donc tu passes la forêt de pain d'épices, etc. pour arriver au grand château de bonbons avec des petits personnages, c'est sympa. Des jeux de réflexion où il faut utiliser la logique. Moi en tête, là j'ai Mastermind qui me vient. On doit deviner la combinaison que l'autre a fait en face. Mais aussi des jeux plus simples comme le Qui est-ce.
Oui.
Où on utilise la logique.
Okay, pour,
oui.
Les jeux qui utilisent le sens aussi. On connaît ça beaucoup en cours avec les Kim. Les Kim goût, les Kim vu, des machins comme
les
ça.
Les Kim dégustation bouteille
voilà.
De vin.
Mais moi, j'ai déjà eu l'occasion de jouer à des jeux pour apprendre l'œnologie. Et tu as des petites capsules et tu dois retrouver l'odeur en reniflant ta capsule.
C'est sympa.
Chouette. Pas trop à jouer en hiver parce que tu te refiles pas mal de microbes, mais, mais ouais, c'est sympa. Des jeux d'observation. Voilà, on voit, on regarde et puis on essaie de voir quelles sont les différences. Il y a plein de jeux comme ça où il faut repérer visuellement des éléments, des petites choses comme ça. Et puis la dernière catégorie que j'ai pu trouver, c'était les jeux à boire.
Ah bah oui, les jeux à boire. Et Seb, et les jeux coopératifs sont des nouvelles formes de jeux qui se développent où l'objectif n'est pas de gagner contre l'un des joueurs, mais de gagner tous ensemble avec une quête.
Ouais, alors ça c'est plus dans les types de jeux que dans les mécanismes, parce que tu vois, dans tous les mécanismes que j'ai évoqués, en fait tu peux avoir plusieurs mécanismes qui vont faire un seul jeu. Donc typiquement, tout à l'heure on parlait de Mastermind, il faut déduire la combinaison de l'autre en voyant ce qui est bon ou ce qui est faux, mais tu dois aussi mémoriser ce que tu as mis. Donc tout ça c'est différents mécanismes qui peuvent intégrer un même jeu. Donc ça c'est pas mal de connaître un petit peu tous ces mécanismes pour choisir son jeu, savoir ce qu'on aime ou pas.
Quelles sont les capacités qui sont requises pour ce jeu?
Ouais, exactement.
Je vois où tu veux en venir.
Ouais, bah j'ai vraiment été un gros joueur. Là maintenant c'est plus par période, mais j'ai vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je suis pas un spécialiste, mais effectivement j'ai testé pas mal de jeux. Alors après j'avais prévu un point, le matériel dans les jeux, mais je m'étais dit que ce serait un peu chiant, donc j'ai zappé. Mais bon, vous voyez, on peut avoir des cartes, des pions, des plateaux, des trucs comme ça, mais c'est un petit peu casse-pied. Et après, après ces mécanismes-là, il y a les différents types de jeux. Et là, effectivement, on peut avoir des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de cartes évolutifs. Donc là, c'est, je pense que Fred, toi, tu connaissais, ça, c'était les cartes à collectionner.
Ça existe jamais, toujours, hein. Ça existe.
Il y a Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça, mais nous c'était plutôt l'époque de Magic.
C'était Magic, ouais, The Gathering.
Ouais.
Auquel j'ai jamais joué, mais je trouvais les cartes super belles, en fait.
Les cartes, alors moi j'ai jamais joué non plus. Enfin si, j'ai fait quelques parties, mais je me suis jamais lancé dans la collectionnite aiguë de cartes.
Non plus, ouais.
En fait, ça me gave un peu, moi, de savoir qu'il y a des cartes rares et tout ça.
Ouais, c'est ça, c'est que quand tu comprends qu'après c'est un petit peu la course vers l'avant, c'est fini le côté à simplement jeu, stratégie, constitution. Il y a un côté financier qui rentre, tout simplement, et moi à l'époque où j'ai découvert ça, j'avais pas spécialement le budget et l'envie de mettre de l'argent dans ce genre de choses.
Ouais.
Donc dès qu'on comprend que c'est un petit peu sur ce genre de mécanique, et ça l'est toujours, les gens, les éditeurs essaient de faire en sorte que on achète le plus de cartes possible, ça gâche un petit peu le côté fun du jeu, je trouve. C'est pour ça que je ne m'étais pas trop lancé dedans, même si j'aimais beaucoup le principe et beaucoup d'illustrations, comme je disais.
Ouais, alors il y a peut-être un truc qui va te réconcilier avec les jeux de cartes évolutifs, c'est un jeu que moi j'aime bien qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes. Le truc, c'est qu'avec la boîte de base, tu peux déjà faire tes petits scénarios. Donc t'as des personnages, tu les fais voyager et ils ont tout un tas d'embûches. Et justement, Pascaline, ça c'est un jeu collaboratif, puisque en fait tu peux même jouer tout seul, tu peux jouer à deux avec la boîte de base.
Tu collabores avec toi-même.
Mais la plupart des, enfin du moins les jeux collaboratifs que je connais, donc je connais celui-là et je connais Cthulhu aussi, pour ceux qui aiment Lovecraft. Il y a un jeu dans l'univers de Cthulhu comme ça, et on peut jouer tout seul aussi, et c'est vraiment, tu joues contre le jeu. Donc là il y a des scénarios qui se font. Alors
ça a l'air sympa, disons, ouais.
T'as des quêtes à faire, et en fonction des quêtes, si tu veux, t'as des piles de cartes qui vont être contre toi, et toi tu as tes piles, tu as tes cartes à toi avec tes personnages, des petites, de l'équipement, etc. Et puis tu avances et tu joues contre le jeu, et le but est de réussir sa quête, quoi. Et de collaborer avec les autres pour mettre sur la gueule aux gros trolls, aux gobelins et tout ça, quoi.
Okay.
Et le jeu, il existe en version française, plutôt en anglais?
Le jeu existe en version française, il a été traduit sans problème. Et alors, il n'y a pas l'aspect collection de cartes, mais en revanche, il y a tout un tas d'extensions après.
Ça me dérange un petit peu moins. Ça peut être sympa pour se renouveler de temps en temps, ou si tu as des amis qui...
Ouais. Donc là, voilà, il n'y a pas de truc où tu échanges tes cartes avec d'autres joueurs, etc., pour avoir ta belle collection. Mais tu te fais quand même ta pile de cartes avec tes personnages, etc. Tu choisis ce que tu vas jouer, tout ça.
Ok. Et pour la... j'allais te demander, la traduction française, tu as une idée de la qualité de la traduction? Il vaut mieux le récupérer en anglais, si c'est possible, ou... Non, j'imagine que c'est la langue d'origine, ou...
Non, ouais, il est en anglais à l'origine, mais non. Au niveau des éditions de jeux, c'est vraiment pas mal foutu. Alors là, je sais plus quel est l'éditeur de ce jeu, je crois que c'est Edge. Et ils ont vraiment fait un gros boulot, il y a beaucoup de passionnés. Et en fait, moi, il y a toujours un site que je recommande, mais on en reparlera un petit peu plus tard, c'est Trick Track TV, où tu peux voir des parties, on t'explique des parties, les mécanismes de jeu et tout en vidéo. Et il y a les notes des utilisateurs, les notes du site, etc. Et tu peux voir une partie. Les traductions sont bien faites. Et elle est importante, la traduction, parce qu'elle te met un peu dans l'ambiance dans ce genre de jeu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, selon avec qui je veux y jouer, c'est en anglais, c'est peut-être pas plus mal. Sympa, je note. Et ouais. Le Cthulhu, il est bien aussi ou...
Le Cthulhu est très bien, ouais. Là, tu avances sur un plateau et tu dois réussir en un temps limité à atteindre tes objectifs. Ouais, il faut vraiment coopérer parce que tu... comme dans souvent les jeux Cthulhu, on en reparlera, on a tendance à mourir assez rapidement. Donc il faut essayer de faire gagner le groupe parce que même si personnage est mort, s'il y en a un qui gagne, tout le monde gagne, quoi.
Tout le monde gagne. Hein. Ah. Okay.
Ouais, c'est un peu ce principe-là qu'on retrouve pour Zombicide, qui existe en français et en anglais avec des tableaux français et anglais. Et voilà, on peut avoir, selon le scénario, tout le groupe doit gagner, tout le monde doit être survivant, ou alors quelquefois un seul doit survivre.
C'est ça. Alors, si je continue un peu ma liste de jeux, on a le jeu de dés. Bah, comme oui. Alors moi je disais Yams quand j'étais petit, maintenant c'est Yahtzee, le 4-21, des trucs comme ça. Les jeux de lettres, les jeux de nombres, nous ici on a le Boggle en jeu de lettres, il faut former des mots avec des dés.
Le Boggle, ouais. On en a ça, y a ça en France aussi, hein. J'en ai un dans mon placard, je l'ai vu quand je suis rentré en France en avril, je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être servir pour la classe. Ouais, et puis finalement, je l'ai laissé dans le placard.
Ah, bon.
Mais bien joué.
Un peu trop d'affaires à ramener. Et mais ouais. Il y a un équivalent du Boggle avec des chiffres, non? Si je ne m'abuse, je crois, non? Un Foggle ou... Je vous dis des bêtises, c'est
non,
ça
non, j'ai vu un jeu comme ça, avec des chiffres et des opérations.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais,
des divisions.
Ouais, entre autres des divisions. Ouais. Dans la catégorie suivante, j'ai noté les jeux de plateau. Alors là, c'est super, super large, puisque tout ce qui est un plateau est un jeu de plateau. Mais moi, quand j'ai commencé les jeux de plateau, donc par exemple un Monopoly, c'est un jeu de plateau. Dès qu'il y a un plateau,
aussi,
c'est comme ça.
C'est
Risque aussi, c'est un jeu de plateau. Mais les premiers jeux de plateau auxquels j'ai joué, moi, c'était Warhammer. Et pour le coup, il faut avoir une très grande table. C'est à l'échelle. Enfin, vraiment, il y a des plateaux de jeux. Alors, nous, on n'était pas à ce niveau-là, mais il y a des plateaux de jeux. C'est vraiment du niveau de la maquette de train électrique, quoi, avec des petits arbres et tout qui ont été construits.
Ouais.
On se déplace à l'échelle, donc il faut mesurer pour voir combien les personnages arrivent à se déplacer, s'ils sont rapides ou pas. Il y a la nature du terrain qui est importante, donc c'est très, très technique, hein. Ça fait vraiment champ de bataille, mais c'est sympa, il faut avoir une pièce dédiée, mais ça reste très sympa à faire, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, je disais tableau, mais c'est le mot plateau que je cherchais pour Zombicide. C'est vrai qu'on peut avoir des plateaux selon le nombre d'extensions et le nombre de dalles qu'on a, vraiment, vraiment, quoi, qui couvre une table, et c'est vrai qu'on pourrait même le disposer sur le sol, tellement que ça peut prendre de place, si on veut construire un grand parcours.
Ouais, et la dernière catégorie que j'ai retenue, ce sont les jeux de rôle. Ouais, auquel moi j'ai beaucoup joué, et je crois que ça fait partie de mes jeux préférés, je pense que ce sont mes jeux préférés, là où il faut du temps. Mais le principe est d'avoir un maître de jeu qui va raconter un peu l'histoire, il va mettre les autres joueurs en situation, et les autres joueurs, donc là aussi c'est un jeu collaboratif finalement, vont essayer de résoudre une enquête ou de faire quelque chose. Dès qu'une action physique est demandée, eh bien ça va se résoudre avec un système de jeu, donc on a chacun notre fiche de personnage avec tous ses savoir-faire, ses compétences, ses habilités, et on va pouvoir voir s'il arrive à sauter au-dessus d'un mur en tirant les dés par exemple, etc.
Ah oui,
Ouais, pour éviter de le faire soi-même, parce que effectivement, ça peut être complexe parfois. Hein.
Mmh. Et s'il y en a que le principe, soit des gens que ça intéresse, donc peut-être toi, Seb, qui connais bien, soit des gens qui ont vraiment pas la moindre idée de ce dont on parle et que l'anglais ne rebute pas. Il y a quelque chose, j'ai découvert ça il y a très très peu de temps, ça s'appelle Titan's Grave. The Ashes of Valkana, avec le bon anglais, je pense que j'y arrive pas très très bien. Et en fait, c'est des, alors c'est un site web qui font ça, c'est en vidéo, ils se filment en train plus ou moins de faire des parties. Mais alors, je crois que ce sont des acteurs plus ou moins qui participent au jeu. Il y a toute une communauté qui a créé des illustrations, donc c'est juste un film de parties entre amis. Et avec une certaine immersion, où il y a un certain travail au niveau de tout ce qui est audio, donc beaucoup de visuels pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et c'est assez sympa. Et le premier épisode, qui est un épisode un petit peu pilote, présente en fait le monde et les règles du jeu. Et ça vaut le coup, quoi. Bon, il faut aimer l'anglais, hein, faut pas être allergique. Mais voilà, on le mettra peut-être dans les notes de l'émission.
Ouais, je sais qu'il y a un podcast français comme ça aussi où ils filment leur partie, ils enregistrent leur partie. Et puis après, il y a tout un tas de parodies, hein, avec par exemple le donjon de Nullbuck, etc.
Ah ouais, aussi, ouais.
Mmh. Mais ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, justement, c'est qu'on a un personnage auquel on s'attache et on le fait progresser. C'est-à-dire que plus il fait d'action, plus il devient bon, hein, il s'entraîne, etc. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, quoi. Le personnage progresse et il lui arrive tout un tas d'aventures. Ça a même inspiré des romans à certaines personnes. Le Puits des Mémoires, par exemple, hein, c'est tiré d'une partie de jeu de rôle.
Ouais. Ok. Au Japon aussi, vu que j'ai passé pas mal de temps, moi, ça avait inspiré un roman qui est après devenu un dessin animé, qui était sorti en France, d'ailleurs, il y en a peut-être certains qui connaissent, c'était les Chroniques de la Guerre de l'Odos.
Ah non, je connais.
Moi, je l'ai vu en animé, c'est génial, ça.
Ouais, c'est vraiment super. Et l'animé aussi, hein, quoi. Au niveau de l'animation, c'était un petit peu spécial, mais au niveau des dessins, c'était très agréable. Et en fait, c'est une des parties de jeu de rôle, en fait, à l'origine. Ils avaient pris des notes et voilà. Donc ça peut.
Ouais.
À glisser dans les notes.
Ouais, on va avoir beaucoup de notes à glisser. Alors dans les jeux de rôle, hein, souvent on imagine Donjons et Dragons, hein, c'est le grand classique, donc un peu en médiéval, fantasy médiévale. Mais vous avez vraiment tous les univers, hein, la science-fiction. Vous pouvez trouver aussi des jeux de rôle qui se passent à notre époque. Moi, je pense à un jeu que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle In nomine Satanis Magna Veritas, qui est une parodie, hein, c'est très drôle. On joue des anges ou des démons, mais c'est vraiment complètement drôle. Il y avait des titres de scénario qui étaient, par exemple, Dieu est en vacances à la Bourboule, des trucs comme ça. Gros succès de ce jeu, avec un système très simple de création de personnages, et donc on peut très vite commencer à jouer, parce que parfois la création de personnages en jeu de rôle, c'est pire qu'une déclaration d'impôt, hein. Et ça peut être très long.
Pire qu'une déclaration d'impôt.
Ah ouais. Il y a des jeux de rôle qui se passent dans un univers post-apocalyptique. Il y a des jeux de rôle aussi qui se passent dans l'univers des cartoons, avec des parties très courtes où on joue des toons.
Ah. Je ne connais pas ça.
Voilà, bah ça s'appelle Toons. Et donc on peut jouer des vampires. Enfin, on peut faire tout un tas de trucs.
Il y a tout un jeu. Par rapport à ce que tu disais, c'est pour ceux qui nous écoutent, ou Pascaline, je ne sais pas si tu connais trop le principe, tu parlais des personnages qui évoluent et tout ça. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, on crée un personnage et ce personnage, on le garde pour plusieurs parties. Voilà. C'est pas la partie est finie, le perso disparaît. Hein. On a sa fiche, donc là, le rôle du maître de jeu est très important, étant donné qu'il va suivre tous les personnages pour les connaître un petit peu. Et c'est pour ça, comme disait Seb, qu'on s'attache beaucoup à son personnage, parce qu'on le garde, en fait, on va dire, ad vitam aeternam, hein, plus ou moins, si le cœur nous en dit.
Je crois que chez ma mère, il y a toujours des fiches de personnages à moi, tu vois.
Ouais.
Alors justement, ouais. Maintenant, les jeux de société, il y en a beaucoup, 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 et on peut se demander comment choisir son jeu. Ouais. Alors pour choisir son jeu en ligne, il y a le site TrickTrack qui référence plein de jeux avec les avis d'utilisateurs. Il y a aussi des vidéos de parties, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi un podcast qui est un site aussi qui s'appelle Proxy Jeux. Proxy avec un i. Donc là, c'est vraiment deux animateurs qui sont très très spécialisés. Je veux dire, ils connaissent beaucoup beaucoup plus de choses que ce que moi je viens de vous présenter. Et je pense qu'ils auraient beaucoup à râler sur ma présentation qui est un peu trop simple. Donc ils ont un podcast qui est sympa où ils invitent des auteurs, ils couvrent des événements et tout ça. Ils testent des jeux. Donc c'est assez à conseiller pour essayer d'être orienté. Puis ils font des trucs sympas au moment de Noël, des jeux pour les enfants, ils font aussi au moment de l'été les jeux de l'été, les jeux pour commencer à jouer. J'essaierai d'en parler tout à l'heure. Pour choisir son jeu, il y a aussi les boutiques. Je pense que là, il n'y a pas mieux. Les boutiques de jeux spécialisés. Parce que maintenant, des jeux, vous pouvez en trouver en supermarché, etc. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller dans les petites boutiques. Pour Lille, je peux vous recommander Rocambole, qui est dans la rue de la Clé, où vraiment, les vendeurs ont essayé tous les jeux. Si vous dites que vous voulez un jeu collaboratif pour des enfants à partir de 10 ans, pour des parties d'une demi-heure, sur un thème un peu marrant, ils vous trouveront le truc. Ils sont vraiment spécialisés. Dans les boutiques de jeux, toutes celles que j'ai essayées, moi, les gens connaissaient bien leur sujet et c'était vraiment agréable. Ils peuvent passer une heure avec vous à vous conseiller tout ça sans problème. Pour choisir son jeu aussi, on peut regarder les récompenses. Il y a le Spiel d'or. Alors ça, c'est le Spiel du jeu de l'année. C'est un jeu allemand. Enfin, c'est un salon allemand C'est un salon allemand qui donne cette récompense-là. Il y a aussi un festival à Cannes où on donne l'As d'or. Il y a aussi le prix Trick Track d'or. Et pour ceux qui seraient au Québec ou aux États-Unis, il y a les deux lys qui est donné aussi par un festival au Québec. Et puis le Origin Awards pour les jeux américains. Donc quand vous avez ces petits labels sur les jeux, en général, vous savez que vous avez un jeu de qualité en face de vous.
D'accord.
Il y a les cafés, non, aussi, les cafés de jeux où ça te permet de tester des jeux sur place avant de te décider.
Oui, alors ça, c'était le où jouer, justement, dans les cafés, quand on n'a pas d'amis.
Ah oui.
Quand on n'a pas d'amis, on peut effectivement jouer dans des cafés, parfois dans les boutiques aussi. Hein. Il y a des espaces réservés aux jeux. Et puis, on peut jouer en ligne avec un site qui s'appelle Board Game Arena. Board Game Arena il y a la version française où il y a tout un tas de jeux, vous pouvez ouvrir des tables. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez dire bah tiens, moi je veux jouer à 5 joueurs, j'aimerais bien que les joueurs connaissent déjà le jeu et qu'ils aient un bon niveau. Donc tout ça vous déterminez, puis vous attendez que les gens vous rejoignent. Il y a aussi des tables pour débutants et les joueurs sont notés en disant attention, celui-là il a déjà quitté 3 parties en cours, on ne sait pas s'il a lu les règles de jeu, etc. Est-ce que vous l'acceptez ou pas?
Et du coup, ils ont reproduit les jeux de plateau de manière virtuelle ou
c'est virtuel.
C'est filmé?
C'est virtuel, okay. Et tu peux choisir soit de faire une partie en temps réel, soit au tour par tour. Typiquement, okay. Le matin tu te lèves, tu fais ton tour de jeu, tu pars, et puis le soir tu reviens, tu regardes si les autres ont joué, si c'est à toi, etc. Quoi.
Ah ouais, ça peut durer longtemps.
Ouais, ça peut durer longtemps, mais t'es pas pressé.
Ouais, non, c'est vrai. Je vais aller jeter un coup d'œil à ça aussi.
Ouais,
on le mettra dans les notes de l'émission.
Ouais, bien sûr. Et puis, pour acheter, moi, je recommande toujours deux boutiques. Philibert, je les aime beaucoup parce qu'ils distribuent, ils envoient un peu partout. Et ils sont fiables et ils soutiennent plein de podcasts sur les jeux de société. Donc par exemple les experts qui connaissent bien aussi les jeux de société, ils sont soutenus par Philibert. Proxy Jeux dont j'ai parlé tout à l'heure sont soutenus par Philibert. Trick Track TV, on voit leurs vidéos de présentation de jeux sur le site de Philibert aussi, donc ils sont assez présents. Et un autre site que j'aime bien, c'est Ludic Bazar. Ludic Bazar qui vous permet en fait d'acheter un jeu, de l'essayer, et si ça vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer.
Ah ouais.
D'accord.
Ça c'est bien comme principe.
Ouais, vachement bien. Vachement bien. Ouais.
D'après.
Si tu calcules bien ton coup, ça peut arriver pour la soirée entre potes. Et...
voilà, bah ouais, ouais, bah ouais, écoute. Non, mais en plus, ça peut arriver. Tu te dis, tiens, je vais faire une soirée et puis on va faire une soirée jeu.
On
et
va
puis,
tester quelque chose.
Ouais. Le jeu te plaît pas, tu le renvoies. Et puis sinon, s'il vous plaît, bah, vous aurez probablement envie de rejouer.
Bah ouais, c'est clair. Non, c'est un bon principe.
Ouais. Alors, un petit point quand même, mais je réserve ça aux experts, hein, sur l'utilisation des jeux en cours. Donc là, on a parlé de plein de mécanismes, plein de types de jeux. Ce qui est bien, c'est d'essayer de les garder en cours, de garder cet esprit, l'esprit du jeu, et pas de transformer, d'adapter le jeu de telle façon qu'à la fin, ce soit plus du tout un jeu. Typiquement, les loups-garous, si on dit, bah voilà, il faut que vous utilisiez du subjonctif pour pouvoir formuler votre accusation, ça devient moins sympa, quoi.
Ouais, on est plus dans le...
Donc si on... Et c'est d'ailleurs quand j'avais fait un numéro des Heures du Fleu avec les experts, ce qu'ils disaient, quoi. Moins on les adapte, finalement, mieux c'est. Mieux bien les choisir au départ. Et justement, autour du jeu, il y a plein de choses, parce qu'il faut savoir expliquer les règles. Ça, c'est assez dur d'expliquer. Il y a des jeux, évidemment, les jeux de bluff, etc., où là, il faut pas mal parler pour les faire. Et il y a aussi un truc qui est sympa, c'est qu'en général, à la fin d'une partie, tu fais un débrief, un peu comme à la fin d'un match de foot. Tu analyses pourquoi tu as perdu, pourquoi tu as gagné, les stratégies que tu ferais, etc. Tu vois, ça, c'est une dimension qui n'est pas souvent prise en compte dans les cours de langue, mais pourtant, ça peut être sympa.
Oui, c'est marrant, puis ça rentre un petit peu dans l'esprit des techniques d'apprentissage. Parfois, on leur demande de réfléchir un petit peu à la manière dont ils apprennent. Mais là, on fait pareil, mais avec le jeu. Je trouve ça sympa.
Ouais. Puis c'est. Alors après, il faut voir. Hein, parce qu'effectivement, jouer en cours, en fonction des publics, ça peut se faire. Mais moi, ce que j'avais fait à Lille 3, c'était plus avec Nicolas Marty, que je salue au passage. Et on avait été soutenu d'ailleurs par tous les collègues pour organiser une soirée jeu. À la cafétéria et on s'était vraiment bien amusé, tout niveau confondu, et on avait fait notamment un loup-garou, et à la fin c'était une jeune femme qui avait voulu maîtriser un peu la partie, hein, donc faire le maître de jeu en disant bah voilà, maintenant le jour se lève, machin est décédé, tout ça, et c'était vraiment vraiment sympa.
Ouais. J'avais un petit peu hésité, moi, à l'AF, à faire un atelier jeu, aussi quoi, un atelier, hein. Donc un cours un petit peu spécial, qui n'aurait pas été un cours, mais effectivement, une fois par semaine, juste des jeux, quoi, de faire que des jeux. Le directeur avait l'air OK. Finalement, je suis parti sur mon atelier débat. Mais,
Ah oui, débat.
Ouais. Toi qui as fait une soirée jeu comme ça avec des élèves, tu penses que, genre, une fois par semaine, dans le cadre d'un truc qui reviennent régulièrement, ça pourrait marcher ou, qu'est-ce que tu en penses, toi, Seb ?
Ouais, le plus difficile, c'est de choisir ses jeux. Ouais. Moi, j'avais passé, bon, avec Nicolas, dont je parlais tout à l'heure, on avait passé une bonne après-midi complète chez moi à jouer. C'était sympa comme préparation, mais pour se dire, tiens, parce que si on arrive avec un jeu trop complexe où il faut une demi-heure d'explication et deux, trois parties avant de bien cerner le mécanisme, moi, c'est sympa, j'aime bien ces jeux-là. Hein, mais pour une soirée, tu vois, on va se dire, bon, ils vont vite se décourager, quoi. Donc il faut de commencer avec des jeux qui ont des mécanismes assez simples pour ensuite, eh ben, si ça accroche, si on sent qu'il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin, partir sur des jeux comme le Seigneur des Anneaux dont on parlait tout à l'heure, mais peut-être pas pour commencer, ouais.
Avoir une évolution, ouais, bien réfléchir son évolution, tout ça, quoi. Ok, ouais.
Et
à creuser.
Bah ouais, parce que après en cours, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Pascaline avant l'émission. On a tendance à avoir une vision très utilitariste des jeux, toujours hyper liés à notre objectif. Donc on va se limiter souvent à des jeux de mémorisation, des jeux quiz pour ressortir le vocabulaire, ressortir certaines phrases, des conjugaisons, etc. Mais pas emmener dans un univers imaginaire comme souvent les jeux le font, quoi.
Ouais, c'est aussi qu'on est c'est aussi qu'on est limité par des curriculums et parfois aussi par les classes et le public elle-même. Donc quand on a des objectifs pédagogiques, quand on a des objectifs, voilà, c'est trouver le jeu qui permette de faire travailler ces objectifs, parce qu'on a aussi des étudiants, par exemple, en Chine, qui paient assez cher, et on peut très très vite se retrouver avec des étudiants qui vont dire « Non mais moi, je paie pas pour venir jouer à un jeu de société, en fait, ni pour faire des jeux. »
Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Hein.
Ça, c'est assez justifié finalement comme attente, leur questionnement. Et dites-moi dans quelle mesure ce jeu que je fais là me permet d'améliorer mes compétences linguistiques.
Mmh. Ouais, tout à fait. Et pourtant, ça le fait, parce que tu vois, on parle toujours de l'apprenant acteur social, et on le disait, les jeux sont de plus en plus présents. Moi, en France, j'hésiterai pas, parce que effectivement, je crois que les apprenants vont avoir de plus en plus l'opportunité de se retrouver à une soirée jeu avec d'autres personnes, quoi.
C'est vrai. Ouais.
Ouais. De toute façon, s'il faut, on fera peut-être un numéro sur vraiment comment les utiliser en cours. Mais là, le principe était de présenter un petit peu des jeux. Alors, quelques recommandations de jeux. Moi, c'est vrai que les loups-garous de Tiercelieu, j'aime beaucoup. C'est un jeu où chacun va jouer des villageois, et parmi les villageois, des loups-garous. Et la nuit, les loups-garous doivent tuer les villageois. Et le jour, les villageois et les loups-garous décident d'accuser quelqu'un d'être un loup-garou et donc l'exécutent. C'est un jeu assez sympa, ambiance. Un jeu dans le même style que j'aime beaucoup, c'est Bang, qui je crois maintenant s'appelle Wanted, où on joue entre, alors je crois qu'avec les extensions on est capable de jouer à 3, mais à 3 c'est pas marrant, entre 4 et 8 personnes, où il y a des hors-la-loi, un shérif, des adjoints et un renégat, et on se tire dessus, et chaque personnage a un objectif différent. Hein. Pour le shérif, c'est de tuer tous les hors-la-loi. Pour le hors-la-loi, c'est de tuer le shérif. Et le renégat, c'est de tuer le shérif à la fin, tout seul, face à face, en duel.
Okay.
Et donc là, pareil, tu fais des hypothèses pour savoir qui, etc.
Ça me donne envie de l'essayer.
Ah, il est vraiment bien, vraiment bien.
Ouais, je l'ai là sur le plaque, sur l'étagère, mais je l'ai jamais essayé.
Ah ben, il faut l'essayer. Citadelle aussi, un jeu de Bruno Feduti, hein, qui est excellent, où là aussi, hein, le but est de construire une ville, et on tire des personnages qu'on choisit. Chaque personnage a des capacités un peu particulières. Chaque tour, ça change. Et on essaye d'embêter les autres et de construire sa cité le plus vite possible. Les colons de Catan à deux, le jeu de cartes, qui est vraiment un jeu de développement pour le coup, où on construit ses villes et ses routes, et puis on développe des ressources pour acheter d'autres trucs, etc. Et le but du jeu est d'avoir le 21, je crois, points de victoire. Et il y a plein de petites extensions qui sont sympas. Les aventuriers du rail, où le but est de relier des villes avec des trains. Et c'est vraiment rigolo. Ça s'appelle Ticket to Ride en anglais. Pour ceux qui veulent, c'est assez cher comme jeu pour le coup, mais vraiment on passe de bonnes heures. Munchkin, qui est une parodie de jeu de rôle, où vous avez votre aventurier, et puis vous ouvrez des portes et vous tuez les monstres qu'il y a derrière. Et parfois, quand ils sont trop forts, il faut demander de l'aide des autres. Et du coup, vous négociez, parce qu'à chaque fois que vous tuez un monstre, vous avez des récompenses. Et donc, vous pouvez négocier votre aide ou pas, et c'est assez rigolo. Un jeu que j'adore, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil, où on doit résoudre des enquêtes. Alors là, c'est très scénarisé, et on doit résoudre des enquêtes plus rapidement que Sherlock Holmes, ou mieux que Sherlock Holmes. Et c'est vraiment sympa. Un jeu assez complexe, hein, mais qui fait passer avec des belles interactions, des bons moments à passer. Et puis, pour les enfants, moi, je recommande les jeux contes de chez Purple Brain. Donc, moi, j'en ai deux ici. J'ai les trois petits cochons, où il faut construire ses maisons sans que le loup souffle dessus. Et puis, Baba Yaga, qui est à chaque fois c'est associé à un conte, et vous avez le conte dans le jeu. Et Baba Yaga, le but c'est de fouiller la forêt pour avoir des ingrédients et créer sa potion et s'échapper. Et un dernier jeu qui est très rigolo pour les enfants, c'est La Forêt Enchantée. Le magicien a été kidnappé, il faut le délivrer. Pour ça, il faut aller chercher des ingrédients dans la forêt. Et là aussi, c'est un jeu collaboratif pour enfants, Donc vous avez différents animaux, ces différents animaux peuvent se déplacer sur différents types de cases et ils doivent aller chercher des ingrédients. Ce qui est rigolo, c'est que il y a un livre de sorts pour délivrer le magicien. Ce livre de sorts, vous l'exposez à la lumière et il est phosphorescent. Donc après, il faut s'enfermer dans un placard dans le noir pour avoir les ingrédients. Et le temps que l'effet phosphorescent disparaisse, vous devez avoir mémorisé les ingrédients et après aller les rechercher dans la forêt. Voilà, ça c'est un peu ma liste. J'en aurais d'autres à ajouter, mais ceux-là, c'est vraiment mon best-of. Vous avez, vous, des best-of de jeux ?
Bah, j'ai une liste de 30 jeux à recommander.
Ah, bon, alors on va commencer par le 30e. Mais,
oui, voilà, ça parle le premier. J'en retiendrai un seul que j'ai découvert cette année, c'est Zombicide. Donc un jeu coopératif où la plupart du temps, les scénarios impliquent que l'ensemble des joueurs fassent partie des survivants. Donc ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à développer des stratégies ensemble et à échanger des idées avant d'agir. Voilà, et c'est assez complexe, hein. Il faut pas mal de temps avant de maîtriser les règles, mais ça vaut la peine, ça vaut le détour, et les parties sont assez longues, je dirais 2 heures minimum par partie.
Voilà. Ah oui, quand même, ouais.
Mmh. Ouais, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Moi, ce sera tout, c'est le seul, je garde celui-là.
Et Fred ?
Non, mais non, je joue très peu, j'aimerais me remettre hein, tout ce qui est jeu de plateau, mais je joue très très peu, donc... J'aurais du mal à vous conseiller quelque chose, ou alors, sauf si vous êtes prêt à vous avoir un petit peu envie de vous lancer dans un jeu de rôle, pourquoi pas. Donc là, on parle d'un jeu de rôle, comme on disait tout à l'heure, avec un maître de jeu, etc. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça existe encore, Casus Belli.
Non.
Magazine, ça.
C'était un super magazine, effectivement, qui parlait beaucoup de jeux de rôle. J'avais découvert un numéro qui date, alors je ne me souvenais plus le nom. En fait, ils avaient publié ce qu'on a un jeu de rôle qui s'appelait donc Simulacre, qui commençait par un S et qui finissait par un grand S aussi. C'est Pierre Rosenthal qui avait créé le jeu. Et si je vous en parle, vous allez me dire, oui, ça ne nous sert à rien, là. C'est parce qu'il a un petit site. Alors, il a un site, c'est une page blanche avec du texte, mais ce n'est pas très, très grave. Parce qu'on peut trouver les règles de Simulacre au format PDF. Voilà, sur le site s'appelle rollist.free.fr. Je viens de le trouver, hein, parce que je ne savais pas que si on pouvait retrouver les règles en ligne. Et ben voilà, ça fait un méga et quelques. Ça vous permettra d'avoir un exemple de règles de jeu de rôle. Peut-être que ça peut, si vous êtes vraiment orienté FLE, vous donner des idées pour avoir des bases de règles pour un jeu à mettre en place en classe. Si vous avez pas mal d'imagination, que vous voulez créer des scénarios, mais que vous savez pas trop comment le concrétiser dans des mécaniques de jeu, ben là, c'est là, en fait, c'est fait pour ça, en fait. Voilà ce que je proposerai.
Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a pas mal de jeux prêts à imprimer aussi.
Oui,
tu peux
c'est
faire
vrai.
Toi-même. Alors, selon tes compétences, c'est plus ou moins dégueulasse, mais si on est bricoleur, ça peut faire des beaux plateaux aussi. Ouais. Et en jeu de rôle, il y a beaucoup de prêts à imprimer. Et il y a aussi un truc qu'il faut regarder, mais là, on ne va pas en parler ce soir, c'est les soirées enquêtes. On vous mettra un lien si vous êtes intéressé, parce que ça, c'est vraiment sympa. Mais on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mmh. Alors, on va voir si vous avez bien suivi. On va passer au quiz.
On l'attendait. Oh non. Oui, voilà, on l'attendait, mais en même temps, il nous fait déjà frissonner.
Alors, dans le quiz, eh bien, Pascaline et Fred, vous allez vous affronter. Et,
oh là là.
Et donc, vous allez vous affronter autour de différentes épreuves. Ouais.
C'est quoi ? Il faut que tu vérifies notre écoute et notre compréhension de ta typologie.
Voilà, votre connaissance des jeux. Et on va faire 5 épreuves et puis on verra qui le premier arrive à 20 points. Ou 21,
d'ailleurs. 21 points. Non, mais je ne suis pas réveillé, moi, là.
Voilà, peut jouer avec nous. Hein.
Alors, on commence par un truc simple. C'est des questions à choix multiples, chacun son tour. Celui qui répond bien a un point. Et moi, je vais garder les points. Alors, on commence par Pascaline. Alors, première question, Pascaline. Au Trivial Poursuite, que faut-il faire quand on a obtenu tous les camemberts ? Première proposition, rien, on a gagné. Deuxième, rejoindre le centre du plateau. Troisième, poser les questions aux adversaires.
poser les questions aux adversaires.
Non,
non.
Rejoindre le centre du plateau.
Trop tard, tu peux pas de points.
Je peux pas gagner des points moi sur 5 questions.
Non, c'est pas encore la question de rapidité. Mais Fred, tu vas pouvoir gagner un point maintenant. Alors, le but de ce jeu est de faire rentrer les jetons dans une petite boîte. Quel est ce jeu? Le jeu de morpion, le jeu de puce ou le jeu de coléoptère?
Le
jeu de puce, bien joué Fred.
Un oh point. Là là, quelle connaissance, quelle culture.
Non, pas du tout, j'ai coup de bol.
Pascaline, quel est le principe du Pictionary dans la version de 1985? Faire deviner des mots en touchant son adversaire, faire deviner des mots en mimant ou faire deviner des mots en dessinant?
En dessinant.
Bravo, un point. On revient sur Fred. Fred, au jeu de loi, combien y a-t-il de cases? 62, ah, parce que je ne compte pas la case départ. 63, mais honnêtement, il n'y a que les 7 toits, la prison, le puits, l'hôtel, le labyrinthe et la mort qui servent. Ou ça dépend des régions.
Oh, 62?
63.
C'est 63, effectivement.
Égalité.
Égalité.
Égalité. La tension monte.
Alors, Pascaline, quel était le titre original du Dr Maboul? Réponse A, j'ai mal. Réponse B, opération. Réponse C, soigne-le.
Allez, opération. Ça fait...
Bien joué.
C'est ce que j'aurais dit aussi. Elle est trop
Fred,
forte.
Alors là, c'est une question qui est donnée pour toi. Ah. Combien de continents trouve-t-on dans le jeu Risk? 5, parce que personne ne veut contrôler l'Antarctique. 6, normal quoi. 6, mais c'est pas ceux qu'on a appris.
Il a pensé à toi, c'est une question délicacée.
Ah ouais, non, mais ça va pas quoi. 6, mais c'est pas ce qu'on a appris.
Exactement, 6, yes. Mais c'est pas ce qu'on a appris. Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein.
Alors, on passe à la deuxième épreuve. Cette fois, c'est le existe ou pas. Alors, pour le existe ou pas, c'est une question de rapidité. Et pour répondre en premier, Fred, tu diras pouet pouet. D'accord. Et Pascaline, tu diras camion.
D'accord, poète poète camion.
Il y a du favoritisme quand même. Poète poète camion.
Voilà, ouais. C'est une célèbre chanson de Bourville, c'est ça qui t'a inspiré?
Non, c'est une mauvaise blague.
D'accord.
Donc là, attention, si vous donnez la mauvaise réponse, le point va à l'adversaire.
Ah, parce qu'en plus, t'as complexifié les règles.
Exactement. Et donc là, je vais donner la règle d'un jeu et vous me direz si ce jeu existe ou s'il n'existe pas. Et oh, vous pouvez avoir un point bonus si vous donnez le nom du jeu. Ça marche?
C'est pas gagné.
C'est parti. Le but du jeu est de mettre 6 billes dans une rigole.
Camion, pardon, ça n'existe, ouais, pas.
Pascaline.
Ça n'existe pas.
Et si, ça existe.
Un point. C'est un point pour Fred, c'est ça?
Yes.
Oui, c'est un point pour Fred, ouais. Ouais.
Fred, merci,
tu peux donner le nom du jeu.
6 billes dans le ravin?
Non. Hexagone. Un hexagone avec des billes noires et des billes blanches.
Mm-hmm. Ah, 6 billes. Ah.
6 billes, ouais. Alors, deuxième. Le but du jeu est de mettre ses adversaires dans une rigole.
Camion, ça n'existe pas.
Bravo, Pascaline.
Ah.
Attention, le but du jeu est de faire deviner des mots sans dire des mots.
Pouet-pouet.
Ouais,
ça existe.
Fred.
Ça existe.
Tu as le nom?
Ça s'appelle Tabou.
Bravo, un point de plus.
Yes, 2 points. Il faut se réveiller, Pascaline.
Moi, j'ai quand même envie de dire pouet-pouet. C'est ça qui me trouble. Je trouve que c'est plus facile à prononcer que camion.
Ouais. Moi, je trouvais camion plus facile à prononcer, mais bon.
Alors, le but du jeu est de faire deviner des mots avec les bruits de son corps.
Pouet-pouet.
Oui, Fred?
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, effectivement.
Ah!
Le but du jeu est de remettre dans l'ordre chronologique des événements.
Camion, ça existe.
Ouais. Tu as le nom?
Non.
Moi, je l'ai.
Ouais.
Timeline.
Timeline, effectivement. Mais bon, yeah, comme t'as pas répondu, t'as pas le point.
Hein. Ah bon?
Le but du jeu est de ruiner ses adversaires avec des opérations immobilières.
Camion, ça existe.
Oui, ça existe. C'est quel jeu, Pascaline?
Le Monopoly.
Exactement. Et le but du jeu et de ruiner ses adversaires en racontant des choses sur lui.
Pouet pouet.
Ouais, Fred?
Ça n'existe pas.
Allez, j'accepte, mais on aurait pu dire ça existe aussi avec ce fabuleux jeu Caractère, où c'est assez spécial comme jeu. Il faut dire par exemple, tiens, selon machin, quelle est la personne la plus timide du groupe, etc. Il faut le faire vraiment avec des jeux avec des gens qu'on connaît bien parce que.
On connaît bien.
Ouais, c'est un peu des fois un peu limite comme jeu. Je compte, je récapitulatif des scores. Pascaline est à 6 et Fred est à 7.
Serré.
C'est très serré, c'est très serré. Alors attention, maintenant on passe un peu à la question cinéma, on est toujours sur du rapide. À quoi joue-t-on dans un film ? Alors, je vais donner un nom de film et vous me direz à quel jeu on joue dans ce film.
Allusion à la fois, ça c'est trop difficile, c'est une culture cinéma et en même temps, donc culture cinématographique et en même temps culture jeu de société.
Alors j'ai essayé de faire des trucs, des films assez connus, enfin que moi je connais. Alors, à quel jeu joue-t-on dans Aladdin ?
Je l'ai jamais vu. Aux échecs.
Pascaline, donc, ouais. Aux échecs.
Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas le génie qui joue à quelque chose, il s'ennuie et pour tuer le temps, il joue à quelque chose ? Non ? C'est pas possible ?
Ouais, non, je crois que c'est avec le singe. C'est une partie de dame.
Ah, c'était pas loin, j'avais le plateau noir et blanc.
Ouais, voilà, le point va à Fred.
C'est abusé.
C'est toujours, il faut toujours dire poète poète là ou...
Ouais, toujours dire poète poète
oui,
camion.
Parce qu'elle n'a pas dit camion, je demande.
C'est vrai. Donc, elle perd deux fois son point. Non.
Non.
Alors, à quel jeu joue-t-on dans La Guerre des Étoiles ?
Ah.
Les échecs.
Les échecs, bien joué, Fred.
Non, c'est.
Si, mais c'est une version en hologramme.
C'est une version hologramme, effectivement. Ouais. C'est ce que j'allais dire, il y avait un truc un petit peu space, mais... Oui.
À quel jeu joue-t-on dans Les Bronzés font du ski ?
Waouh !
Ah, j'étais sûre qu'il y aurait une question avec Les Bronzés, mais qu'est-ce qu'ils font comme jeu ? Ça doit pas être un jeu très malin.
Poète-poète à la belote ?
Non, c'est pas la belote, c'était le Scrabble.
Ah bah, c'est perdu pour Fred, donc un point pour moi.
Un point pour Pascaline.
Ça va, hein ? Bon.
À quel jeu joue-t-on dans X-Men 2 ?
Aux échecs.
Oui, aux échecs, Fred.
Non, c'est abusé.
Mais si, par la télépathie, non ?
Oui. Alors, troisième épreuve de rapidité, je vous demande si c'est un jeu de société, un film ou les deux. Donc, je vous donne un titre et vous me dites si c'est un jeu de société, un film ou les deux. D'accord ? Alors, c'est parti. Mad Max.
Poète-poète.
Oui, Fred ?
Les deux.
Ouais, bien joué. Alors en fait, j'ai pas retrouvé. Moi, j'ai joué au jeu Mad Max avec des petites voitures, mais j'ai pas retrouvé le jeu en tant que tel. Donc je sais pas s'il existe encore.
Ouais, mais ça me dit quelque chose, effectivement.
Attention, Blood Bowl.
Poète-poète ?
Ouais, Fred ?
Les deux.
Non, il me semble pas qu'il y ait de film.
Il s'appelle comment Ah, c'est pas Blood Bowl, le film là où ils sont. Tu sais, dans une piste, c'est un super vieux film, dans une piste en... Ah non, c'est Rollerblade.
Rollerblade, ouais.
Ah.
Le point va à Pascaline. Attention, je continue avec Donjons et Dragons.
Camion, poète. Ouais. Camion, les deux.
Les deux, tout à fait, Pascaline.
Yes. Ah, mais le film est pourri, ça compte pas.
Ouais.
Oui, ben, je l'ai pas vu, mais je le connais.
Le jeu original est pas terrible non plus. Hein. Attention, La Bataille Navale.
Camion, le jeu.
Alors, il y a un film.
Non.
Si. Ouais, le point va à Fred.
Merci, Pascaline.
Le fantôme de l'opéra.
Camion, un film.
Et non, les deux.
Ouais. Non, il y a aussi un jeu qui s'appelle Le Fantôme de l'Opéra.
Ouais, un jeu français fait par Bruno Catala, qui est excellent d'ailleurs. Excellent.
Ah ouais.
Ouais. Attention, Star Wars.
Poète-poète.
Camion, les...
Ouais, Fred.
Tout.
C'est tout, effectivement, tout. Les jeux, les figurines, les badges, tout. Le jeu de rôle, le jeu de plateau, tout ce qu'on veut. Alors attention, qui veut passer pour un couillon sans gagner du pognon ?
Poète-poète.
Oui, Fred ?
Un film qui...
Et non, c'est un jeu. Merci. Qui veut passer pour un couillon sans payer du pognon ? Le point va à Pascaline.
C'est moi qui ai passé pour un couillon.
Et enfin, facile, Le Seigneur des Anneaux.
Camion, les deux.
Oui, les deux, Pascaline, tu as raison. Un point.
J'ai laissé le point à Pascaline.
Récapitulatif des scores. Pascaline, 11 points. Fred, 14 points.
Oh !
11 à 14.
Attention.
Ouais, attention, parce que là, on arrive à la dernière épreuve du jeu. C'est Fred, c'est toi qui mène. Et donc, tu vas devoir me dire combien de jeux tu penses pouvoir citer donc de tête. Hein. Et Pascaline, tu me diras si tu peux faire plus ou si tu laisses la main. Et Fred, donc, je te demande de citer le maximum de jeux qui ont été évoqués dans l'émission.
Oh non !
Si certains des élèves de Sébastien nous écoutent, je compatis.
Je vous laisse une petite réflexion. Alors Fred, combien de jeux tu penses pouvoir citer qui ont été évoqués dans l'émission ?
Ah, qui ont été évoqués dans l'émission ?
Ouais.
Mais oui.
J'en ai pas la moindre... 10.
10. Pascaline, tu peux faire mieux ?
Non, je peux pas, je passe la main.
Tu passes la main. Alors j'aurais Fred, on t'écoute.
Il a laissé faire. On a parlé de Zombicide, c'est Pascaline qui en a parlé. Les jeux dont on a parlé dans le quiz, ça compte ou pas ?
Ouais.
Alors, le jeu Star Wars, Seigneur des Anneaux, on a parlé du Monopoly, on a parlé du Trivial Pursuit, on a parlé du jeu du Fantôme de l'Opéra, je fais travailler ma mémoire courte.
Oh, c'est bien.
Ça fait 6. On a parlé du risque quand on a parlé des continents, on a parlé de Loup-garou, que vous aviez l'air de bien apprécier.
Oh là là, il va y arriver.
Non, on me déconcentre pas. On a parlé de quoi après ? Tu vois, tu m'as déconcentré. On a parlé après de Settlers, non, ça c'est le nom en anglais. Tu en as parlé après, c'est les... Oh, il m'en manque deux. Pim,
il en manque deux, effectivement.
Et le temps s'écoule et le sablier est bientôt vide.
Le jeu de loi. Et tu t'étais trompé, tu cherchais le nom du truc. On a parlé du Boggle pour les lettres, on a parlé du Foggle, parce que j'ai vérifié entre temps, ça existe bien le Foggle pour les nombres.
Bah ça y est, t'as gagné,
c'est bon, t'as gagné. Ouais.
Yes.
Et c'est une victoire de Fred, et on va faire tourner. On va faire tourner la roue des gages pour Pascaline, effectivement.
Qui s'occupera du prochain Agitox ?
Et on tire la roue.
C'est quoi tous ces gages ? C'est quoi les autres ?
Ah, et ben voilà. Alors, on les découvrira au fil des émissions. Mais là, tu dois faire le générique de fin à la bouche.
mais je le connais pas, moi, le générique de fin.
Ce sera ton gage. Bah écoute, t'en inventeras un pour l'occasion.
Ok.
Voilà, c'est terminé pour ce quiz et pour notre dossier sur les jeux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule.
La rubrique coup de cœur, coup de gueule, c'est très original. C'est la rubrique où on parle de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Alors toi, Pascaline, cette fois-ci, c'est plutôt un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Donc c'est un coup de cœur, et pas parce que je vis sur la planète des bisounours, mais parce que j'ai regardé le site du Canopé et que cette semaine, à l'occasion de la Bastille, nous propose de découvrir le site Neopodia. Vous le connaissez ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Vous ne connaissez toujours pas. Ben c'est un site en fait qui propose un bouquet de chaînes, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils mettent en ligne gratuitement des programmes audio et vidéo, donc voilà, qu'on peut consulter, et notamment sur l'histoire, mais il y a aussi d'autres disciplines, les sciences, la littérature. Et donc là, en l'occurrence, comme c'est le 14 juillet, il y a une petite vidéo dans laquelle un historien nous explique heure par heure ce qui s'est passé le 14 juillet. Et voilà, ça pourrait intéresser un petit peu tout le monde, les amateurs d'histoire, les professeurs qui veulent expliquer à leurs étudiants, et puis, tous ceux qui sont un peu curieux. Voilà, c'est Neopodia. Alors, toi, Fred, c'est quoi ton coup de gueule ? Parce que je crois savoir qu'il s'agit d'un coup de gueule.
Oui, il s'agit d'un petit coup de gueule.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Faut que je me fasse plaisir ? Non.
Ouais.
Ouais, non, c'est par rapport... Je suis abonné depuis quelques numéros à la newsletter de l'Institut français. Et j'étais un petit peu déçu la première fois, et ça s'est répété un peu à chaque fois, de pas avoir beaucoup d'actualités, de nouveautés par rapport au français, on va dire, et à l'enseignement du français de manière générale. l'actualité à ce niveau-là est très, très minime, en tout cas sur le site de l'IF. Il y a beaucoup de choses culturelles. Moi, j'adore le culturel, je trouve ça très important. Mais je sais pas, je m'attendais, je trouverais ça bien que le français, peut-être, et l'enseignement du français, les acteurs qui sont concernés, soient peut-être un peu plus mis en avant dans cette infolettre. Voilà, c'est tout. Et toi, Seb ? Tu as un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Alors moi, c'est un mi-coup de cœur, mi-coup de gueule et remi-coup de cœur derrière. C'est pour Mondes en VF. Mondes en VF, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. C'est une collection que j'adore, de romans, d'œuvres littéraires pour les gens qui apprennent le français. Donc c'est pas juste des adaptations d'œuvres libres de droit. C'est vraiment des auteurs soit qui ont écrit pour la collection, soit eh bien, la collection qui a acheté des nouvelles ou des romans un peu courts pour les éditer en français langue étrangère. Et donc je trouvais ça super sympa, vous avez accès au livre, c'est une belle édition, il y a des notes de bas de page qui sont sympas. Quand vous achetez le livre, vous avez gratuitement accès à la version MP3 audio de qualité en plus. Et moi les livres que j'ai lus de Mondes en VF étaient vraiment très bien et je voulais l'utiliser en cours. Et c'est là qu'arrive mon coup de gueule, parce que en fait, quand on veut acheter la version papier ou la version électronique depuis l'étranger, eh ben, c'était tout simplement pas possible. Ils ne voulaient pas de carte bleue autre que européenne ou française. Hein. Il y avait quelques pays comme ça.
C'est un peu idiot. Hein.
Bah ouais, c'est carrément idiot. Alors j'avais contacté Myriam Louvio, qui est la directrice de collection, pour lui signaler. Elle ne semblait pas tellement au courant. Donc elle a contacté l'éditeur, qui est Didier, qui ne semblait pas non plus au courant. Donc tout se joue au niveau des distributeurs. Et c'est tout simplement une guéguerre entre le groupe Hachette, d'après ce que j'ai compris, et Amazon. Et là, il se trouve, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Donc, quand vous allez sur le site de Mondes en VF, si vous voulez acheter la version électronique, ils ont changé de boutique. Avant, c'était Numilog, maintenant, c'est une autre boutique, les libraires associés, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et là, on ne voulait pas que j'achète. Et j'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais quand même chercher. Et j'ai cherché sur le site de Kobo. Et là, j'ai trouvé 8 ouvrages, donc c'est pas la collection complète, mais il y a au moins 8 ouvrages. Alors je sais pas comment ils ont été choisis, ça me paraît être un peu au hasard, principalement dû à deux. Donc je les ai achetés, tout a bien fonctionné. Et du coup, j'ai contacté les libraires associés pour leur dire, mais écoutez, pourquoi je peux pas les acheter chez vous, je suis obligé de passer par Kobo, etc. Et en fait, ils savaient pas non plus, donc ça les a plus ou moins intéressés. Et donc après, du coup, je suis allé voir sur Amazon et les 8 mêmes ouvrages étaient disponibles aussi en version papier ou en version électronique pour Kindle, pour le coup. Donc je suis content parce que je vais pouvoir utiliser ça en cours. J'ai un gros coup de cœur pour La Voyeuse, qui était vraiment un roman épistolaire magnifique, mais moi je vais plutôt hésiter entre 24 heures chrono, enfin New York 24 heures chrono, La Cravate de Simenon et Jus de Chaussette, qui sont un peu... Enfin, La Cravate de Simenon, c'est pas vraiment un policier, mais les deux autres sont des policiers et c'est ce qu'on a au programme. Et donc je vais essayer de travailler ça à la rentrée, maintenant que mes apprenants peuvent se procurer les ouvrages. Mais voilà, donc en gros, on est toujours un petit peu victime de ces distributeurs. On ne sait pas pourquoi c'est disponible, il n'y a pas vraiment de solution. Et ça m'énerve un petit peu, de la même façon que tout ce qui est protection sur les livres électroniques, c'est casse-pieds, parce qu'on ne peut pas se les prêter. J'adore, hein, j'adore ma liseuse, j'adore lire sur une liseuse électronique, mais là, vraiment, ça commence à me casser les pieds. Et ils sont toujours en retard. Alors l'industrie musicale avait déjà fait le même truc, avec vous pouvez copier sur cet appareil vos musiques, après c'est plus possible. Ils sont revenus en arrière et là maintenant, moi j'attends les offres d'abonnement à des collections comme on a sur Netflix pour la vidéo ou sur Spotify pour la musique. J'espère qu'on aura la même chose pour les livres, qui commencent d'ailleurs avec Amazon, je crois qu'ils ont commencé à faire ça.
Ah, c'est casse-pieds ces restrictions. Bah ouais, faut espérer que ça va évoluer rapidement.
Ça les sert même pas, je veux dire, moi ça fait déjà un an que j'aurais pu acheter des livres avec mes apprenants et que je repousse le projet de travailler avec la collection Mondes en VF parce qu'on peut pas se les procurer, quoi.
Les seules personnes que ces protections sont faites contre le piratage, mais les seules personnes que ça dérange, c'est les gens honnêtes qui veulent les acheter.
Bah ouais.
Parce que les pirates, ils font sauter les protections et puis voilà, quoi. Ouais. Mais c'est connu, hein. Enfin bon.
Mais c'est vraiment dommage parce que pour le coup, le prix est abordable, parce qu'avant, quand il fallait acheter un roman à New York, c'était super cher. Là, c'est le même prix en euros et en dollars, donc c'est vraiment bête. Mais enfin bon, on va pas se plaindre, il y en a au moins 8 de libres. Tant pis pour le niveau B2, il n'y en a pas pour le niveau B2, c'est que A2 et B1. Donc ça va, je vais pouvoir commencer à travailler. Mais quand même, quelque part, ça me casse les pieds, quoi.
Ouais, On t'a entendu.
Je te comprends. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette première émission des Agités du Dernier Rang. Et je pense qu'il vous tarde à tous d'écouter Pascaline qui va nous faire le générique de fin. J'espère qu'elle a beaucoup d'inspiration.
Oui, voilà.
On va lui laisser quelques secondes de plus pour se préparer. En attendant, on tenait à vous remercier tous pour vos encouragements, vos commentaires sur les différentes plateformes, sur le site Agito, mais aussi sur SoundCloud. Et sur les réseaux sociaux. Continuez, on espère que cette émission un petit peu spéciale, donc très orientée détente, vous a fait passer un bon moment. En tout cas, nous, on s'est bien amusé, non, je crois.
On a appris plein de trucs.
Pascaline est concentrée, on va pas la perturber trop. Donc, pour cette émission aussi, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça nous aide, ça nous fait un petit soutien. Donc, en laissant un commentaire sur les plateformes habituelles. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Générique.
Voilà, je pense que ça ira, je pense que ça suffira à nous pour le générique.
C'est pas mal, c'est dans la boîte.
C'est dans la boîte.
Bon. Salut à tous.
Salut à tous.
Salut. Merci.
Ouais, j'ai pas répondu tout de suite parce qu'il y avait le bruit de porte justement.
Oui, c'était intéressant, c'était genre je pars.
Il nous emmerde avec tes châteaux.
Alors dans ce dossier, dans mince. Je suis dyslexique.
J'ai oublié mes dents.
Ah, moi je suis. Ah d'accord. Pardon. Je voulais apporter une nuance, mais... Pascaline. Non, en fait, j'ai dit, je suis d'accord, en fait. J'ai réfléchi en parlant. Oh. Il y a eu un oiseau ?
Non, il y a eu un klaxon.
Ah, d'accord. Ok.
D'accord, bon, on va le passer aussi. À quel jeu joue-t-on dans Jason et les Argonautes ?
Rugby. Très bien.
Non, bah, voilà. On va la passer.
C'est un petit peu Mario, ça.
Ouais, voilà, mais c'était le temps de réflexion.
Ah, c'était pas la question.